affabulé.
C'est ça. Affabulé. Affabulé.
Deux F.
わかりますよ、ジャンヌ.
Sounds like they were very happy.
Yes, they were.
もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。
Bonjour à toutes, bonjour à tous, d'étoiles plein les yeux, c'est votre magazine de cinéma sur Transistor et ça repart pour une quatrième saison, qui s'ouvre, vous l'aurez peut-être déjà entendu sur une nouvelle formule un petit peu remaniée. Évidemment, nous continuerons à critiquer des films puisque c'est un peu notre fond de commerce et on commencera cette saison avec Le Poirier Sauvage du Turc Nuri Bilge Ceylan. Puis nous continuerons avec un petit aperçu des films sortis cet été qu'on vous proposera de voir vite vite avant qu'ils quittent les salles obscures. On terminera bien sûr comme d'habitude avec quelques petites bandes annonces, mais donc cette semaine la toile c'est Le Poirier Sauvage, les yeux ce sont ceux de Meriel, Juliette et Maë. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Covid میشه؟
نه بیتی ها
نه به دولت من بیمه olacaksın
şimdi. Ya dur daha belli olmaz o bak sınava falan gireceğiz ondan sonra.
Demek yazar olmak istiyoruz ha?
Var mı öyle pat diye hayale ulaşmak? Ya bir kere insan mesleğini sevince her yerde, her şartta yaşayabiliyor bence.
İyi bir yazar dediğin şikayet edip durmaz. Oturur yazar kardeşim. Şartlar nasıl olursa olsun.
Yakınlarını ihmal etmek, hatta gerekiyorsa kullanmak, meze yapmak pahasına.
Alors, le poirier sauvage, c'est cet arbre typique de ce coin d'Anatolie où retourne Sinan après ses études. Sinan, c'est donc le jeune personnage principal du film, écrivain en herbe, puisqu'il écrit un livre qui s'intitulera lui-même Le poirier sauvage, écrivain en herbe, confronté comme souvent les personnages de Nuri Bilge Ceylan à une sorte de crise existentielle, une face-à-face avec l'absurdité de leurs aspirations et qui se retrouvent pendant les 3 heures et 8 minutes que dure ce film, là aussi le format est assez habituel chez le réalisateur, à rencontrer un certain nombre d'autres personnages avec lesquels il échange des dialogues qui font eux aussi, là encore, la marque de fabrique de Ceylan, des dialogues longs, des dialogues cruel aussi, qui forme un film qui ne vous a certainement pas laissé indifférente. Alors je me tourne vers vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Maë?
Eh bien, pendant longtemps, j'ai pas du tout su ce que j'en avais pensé justement, et je crois qu'au fond c'est ça qui a dû me plaire, parce que je crois qu'il m'a beaucoup plu, après mûre réflexion. Et je pense que c'est... Enfin, j'étais d'abord perdue parce que c'est pas un film purement contemplatif, selon moi. Il y a des très belles images, bien sûr, avec ce, on ne sait pas trop qui du personnage ou du paysage est le plus dépressif. Mais en même temps, on sent qu'il nous raconte quelque chose, on ne comprend pas trop quoi. Et voilà, et en fait, en réfléchissant, je me suis dit... j'ai interprété le film à ma façon, donc ça y est, on part dans les tréfonds de mon imagination. Mais... en fait, je crois que ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas de complaisance dans ce film. Il n'y a pas de complaisance dans ce personnage dépressif, ni dans les images. Il n'y a pas de complaisance de la part du réalisateur dans cette sorte d'immense dépression qu'il nous montre. Et en fait, c'est... Ouais, il nous retire jusqu'à l'illusion de ne pas avoir d'illusion. Je crois que j'ai lu ça quelque part, et ça m'a beaucoup plu. Je suis complètement d'accord avec ça. On a ce personnage complètement misanthrope, antipathique, mais en même temps, on se sent assez proche de lui. Et en fait, en même temps, le film lui fait pas de cadeau, et petit à petit, il le remet à sa place, ce personnage. Et c'est ça qui m'a plu, et c'est ça à quoi je pense qu'on n'est pas trop habitué au cinéma, parce que généralement, même un personnage antipathique, misanthrope, même la dépression ou les trucs un peu sombres et les regards un peu ternes sur le monde, il y a une certaine complaisance dans la façon dont on les montre à l'écran, parce que bah voilà, c'est Les grandes crises existentielles, c'est le personnage détruit par le paysage, pardon, détruit par la crise, etc. Alors que là, il nous montre juste les faits et en même temps, il nous empêche d'en faire une sorte de grand tragique romanesque. Voilà.
Le personnage est donc un peu l'époque remis à leur place au fond d'un puits, hein, précisons-le, pour la dernière image du film, Juliette.
Je suis d'accord sur la structure qui est assez complexe, comme tu l'as dit, Maï, c'est sans doute pour ça qu'on ne sait pas trop quand on sort quoi en penser, parce qu'on est déjà assommé par la longueur, et on est assommé par cette structure un peu romanesque du personnage. Et en effet, au début, on se dit, non, mais quand même, à un moment, on va peut-être l'apprécier, c'est vrai qu'il a du mal, et en fait, non, il est vraiment antipathique de bout en bout, et ça marque une certaine fatalité qui est vraiment typique d'un roman, je trouve, plus que d'un film classique. Et malgré cette complexité, moi j'ai été assez peu convaincue par certains moments de lourdeur. Enfin, Rémi, tu nous as fait écouter la bande-annonce et on a cette musique classique, lancinante, qui revient, je sais pas, 15 fois dans le film. Non, j'exagère un peu, mais...
Je pense pas, non.
Je trouve qu'elle est revenue beaucoup, beaucoup, sur des moments vraiment où on se dit, ok, là on a un plan fixe sur le paysage avec le personnage seul qui avance et on a cette musique qui revient à chaque fois pour appuyer très lourdement le propos. Et je trouve qu'il y a des moments de lourdeur comme ça, les moments de débat qui pour moi arrivent un peu... de manière incongrue parfois, ils sont très longs et je veux dire, le propos n'est pas lourd, mais la façon dont ils sont amenés dans le film parfois m'a un peu laissé de marbre, je dirais. Et j'ai été un peu déçue parce qu'en dehors de ça, c'est, bah, comme tu l'as dit, Maï, c'est beau et je sais pas, c'est complexe de voir ce personnage se dépêtrer avec son passé et avec la fatalité, avec ce père auquel il va de plus en plus ressembler au final. Et du coup, je trouve que les sons plus naturels que cette musique, les sons pris au départ, enfin l'introduction m'a émerveillée, j'ai fermé les yeux parce que je me disais ces sons sont nets et précis. Au début on a aucune parole et on suit simplement le personnage et c'est très net, on a ses pas, ensuite on a un son de trafic pour comprendre qu'il revient chez lui, on a le son du bus, on a de nouveau ses pas dans la rue et enfin un voisin l'interpelle, enfin quelqu'un qui va interpeller pour une raison pas forcément très joyeuse,
en fait,
un créancier. Et je trouve que ces sons naturels sont beaucoup plus intelligemment amenés que cette musique un peu trop lourde ou d'autres choses voilà, par lesquelles j'ai été moins convaincue.
Oui, tout à fait.
Alors, Marielle, comme arbitre.
Non, c'est pas du tout un arbitre parce que, en fait, je suis allée voir le film deux fois. Parce que la première fois, effectivement, je n'ai pas su.
Moi aussi.
Ah, la première fois.
J'ai pas eu le temps.
Non, c'est pas ça. J'étais juste. Je savais pas quoi en penser, mais surtout, à la fin, je me suis dit, « Mince, je suis passée à côté de quelque chose. » Et donc, deux semaines plus tard, je suis retournée voir le film. Et là, je me suis dit, ce personnage antipathique, en fait, j'ai l'impression que c'est une... Il est tiraillé entre... alors, comment dire ça ? Vu son âge, et vu ce qui se passe en Turquie, et ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, j'ai l'impression qu'il est complètement modelé par ça, et qu'en même temps, il a une forme de résistance qui lui vient de son père, mais il s'en rend compte qu'à la fin, et que cette résistance-là lui fait faire, des à-coups d'attaque envers le monde, qui sont toujours mal placés, en fait. Et il tâtonne beaucoup, c'est-à-dire que, il a écrit un livre, au début, on ne sait même pas ce qu'il vaut, ce livre, en fait. Mais il va aller jusqu'à des ressorts complètement disproportionnés dans cette échelle-là pour faire publier son livre. Et puis, on ne comprend pas. On pensait que c'était l'objectif du film. Et tout à coup, il repart sur autre chose, la relation père-fils. Et à la fin, tout à coup, on se dit, mais peut-être que le livre qui était... une parole écrite où enfin il pouvait penser par lui-même, enfin c'est pas penser par lui-même, mais qu'il trouve une justesse par l'écriture, mais qu'il abandonne complètement parce que le monde à l'extérieur lui permet pas d'être comme ça. Je sais pas. Voilà.
Oui, bah alors je vous rejoins complètement sur ce que vous avez dit. Je me suis beaucoup posé la question en sortant du film de savoir ce que j'en aurais pensé si j'avais pas vu Winter Sleep, qui était le précédent film de Ceylan. Où les deux, il y a des échos formidables entre les deux films, entre ces deux personnages perclus d'amertume, sauf que celui de Wintersleep avait 60 ans et ici il en a 20, et c'est la même amertume qui est à l'œuvre dans des personnages d'âge quand même sensiblement différents. Alors, j'ai trouvé Le Poirier Sauvage moins bon, donc il y a forcément une dimension un petit peu de déception, parce qu'en effet, les lourdeurs dont tu parles, Juliette, elles sont là, alors pas sur la musique, parce que cette utilisation d'une même musique lancinante à travers le film était déjà à l'œuvre dans, dans les films précédents et de façon bien plus marquée encore. Et, mais c'est plus dans la façon dont les dialogues sont amenés. Alors les dialogues qui sont toujours écrits de façon toujours aussi brillante et pertinente et horriblement cruelle vis-à-vis des personnages à qui on les fait dire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une, d'une lourdeur qu'il n'y avait pas, et on retrouve d'ailleurs, on perd de nouveau cette lourdeur paradoxalement lorsqu'on se retrouve dans ces intérieurs que filme si bien Chelan, et en particulier cette scène où, où le fils donne le bouquin à sa mère, et où là réapparaît sur son visage le rictus de son père. C'est à ce moment-là qu'on comprend que le fils finalement va seulement suivre la trajectoire du père, et tu parlais de la dimension romanesque du film, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vraiment ce film est un grand roman russe. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ça là-dedans, aussi dans la justesse, et la justesse toujours aussi cruelle du portrait de la Turquie que filme Chelan dans ce film, de façon un petit peu en filigrane. Mais il y a cette scène dont on n'a pas parlé au début du film, qui est assez longue, enfin, comme toutes les scènes du film, où il retrouve un amour de jeunesse, et où il y a cette espèce d'instant suspendu caché derrière un arbre où ils parlent, ils font un petit peu l'état des lieux de leurs illusions perdues, ils s'embrassent, et puis il y a cette morsure qui termine la scène comme une espèce de d'inachevé total qui donne bien le ton du film. Et je trouve que c'est très habile aussi de ne pas faire réapparaître tous ces personnages plus tard dans le film. Il y a vraiment une déperdition, un dépouillement tout au long du film, jusqu'à revenir finalement à cette figure sisyphéenne du père qui construit son puits inlassablement avec son rictus, parce que qu'est-ce qui reste? Une forme d'aveuglement et de dérision qui sont finalement la seule porte de sortie que nous donne le réalisateur face à cette espèce d'immensité absurde que n'est pas forcément le monde, mais dont il semble être en train de nous dire qu'il le devient aussi, parce que le tableau social est quand même très très présent, je trouve, dans ce film, et peut-être plus qu'il l'a été par le passé dans sa filmographie. En tout cas, je sais pas, ça reste quand même un film assez frappant, et je trouve que c'est aussi assez impressionnant de voir à quel point on est face à un réalisateur dont la filmographie fait œuvre, fait une espèce de totalité, et où il construit quelque chose sur le temps long, y compris dans ses films, mais sur toutes ses heures de films accumulées. Et on a vraiment une démarche très très singulière, et rien que pour ça, c'est un film qui vaut absolument le coup d'être vu, je pense. Je vous laisse le mot de la fin pour dire s'il faut aller le voir, mais je pense que...
Tu disais qu'il y avait une seule porte de sortie qui était l'aveuglement, il y en a quand même une autre qui est présentée à plusieurs moments dans le film, qui est le suicide. Elle est quand même bien présente, cette porte-là de sortie.
Elle est récusée en permanence.
Et elle passe en fait par des moments de rêve et de fantasme. Il y a trois moments quasi surréalistes dans le film, et qui sont utilisés. Je me suis dit que c'était une forme d'invention de dramaturgie, parce que juste avant, on ne va pas raconter la fin, mais la dernière scène prend beaucoup plus de sens, parce qu'elle a en contrepoids tous les fantasmes et tous les rêves, toutes les possibilités qui auraient pu avoir lieu. Et moi, je n'ai jamais vu dans un film, en fait, l'usage d'une surréalité comme ça. Et juste une dernière invention formelle que j'ai trouvée très forte, c'est le montage qui passe toujours par correspondance, c'est-à-dire qu'on sort d'une scène par une porte qu'on entrevoit, et hop, on va dans une autre porte, dans un autre endroit, et c'est là aussi, c'est très fort, je trouve.
Et le montage du son aussi, au passage, qui est extraordinaire. On n'a plus forcément le temps d'en parler, mais tu l'évoquais, Juliette, et il y a vraiment un travail sur le son qui est assez fou. Bref, on conseille donc Le Poirier Sauvage de Nuri Bilge Ceylan, encore en salle pour quelques temps, dans les salles lyonnaises.